Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Et si on faisait le pari de l'intelligence collective? Même si cette idée, ce concept a encore du mal à s'imposer, les entreprises sont de plus en plus nombreuses en France à se poser la question. Pour faire face aux défis liés à la compétitivité dans un marché toujours plus concurrentiel, on est souvent plus intelligent à plusieurs que seul, plus créatif. Alors, comment utiliser cette intelligence collective au mieux? Quelles sont les règles à respecter? C'est ce que nous allons voir ensemble, justement, avec vous, messieurs. Jean-Eux Tesson, bonjour.
Bonjour, Priscilla.
Chef d'entreprise, Joseph Tounel, bonjour.
Bonjour, Priscilla.
Vice-président de la CFTC. Alors, Jean, pour le chef d'entreprise que vous êtes, concrètement, c'est quoi l'intelligence collective? Vous la voyez comment, cette intelligence collective?
Alors, pour une entreprise, c'est la capacité à mêler, à combiner les intelligences, mais pas que, c'est aussi les connaissances des salariés au profit de l'équipe, au profit de l'entreprise. En fait, ça va au-delà de l'addition des compétences. Et il y a quelque chose, j'aime bien parler d'alchimie, parce que c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. On ne dit pas, tiens, voilà, on va assembler les compétences et les connaissances de telle façon. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça match ou ça ne matche pas parfois. Et finalement, il y a quelque chose, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Moi, je dis souvent que la performance, enfin le management, c'est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et en combinant toutes ces attentions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, normalement, l'équipe, par cette alchimie entre les personnes, va pouvoir elle aussi donner le meilleur d'elle-même. Et pour moi, je fais un lien fort entre l'intelligence collective et cette capacité pour l'équipe de donner le meilleur d'elle-même, mais parce qu'on aura permis à chaque individu de donner le meilleur de lui-même. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que le risque, quand on parle d'intelligence collective, c'est d'oublier l'individu, c'est-à-dire de le fondre dans le groupe, et c'est surtout pas ça, parce que du coup, à ce moment-là, l'intelligence collective a vraiment des limites. Elle est limitée.
– Joseph ?
– Oui, pour que ça fonctionne bien, il faut d'abord un but commun. Donc ça participe à la dynamique de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une confiance qui soit, et la confiance, ben, ça se cultive. La confiance, elle ne tombe pas comme ça, donc c'est aussi sur la durée. Et il ne faut pas oublier ce que dit Jean-Eudes, c'est-à-dire le principe de subsidiarité. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse ou pense à la place de chacun. Chaque personne a sa place, sa propre responsabilité, et c'est comment on fait cette alchimie de chaque personne avec sa responsabilité, son savoir, sa connaissance, son expérience, son intelligence propre. Ben ça s'appelle la gestion du personnel. Hein. Parce que si la gestion du personnel est sans intelligence collective, alors ça fait pouf. Et ça peut être dangereux aussi. Ça peut tomber aussi dans la manipulation de masse. Ça peut tomber dans les plus nombreux ont toujours raison. Et ça donne le drame de Challenger. Challenger, la navette spatiale aux États-Unis. Travail collectif, et puis il y a une petite voix qui a dit, attendez, là, il y a un problème. J'ai dit que non, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, lui le disait, mais les autres ne le disaient pas. Oui, mais elle a explosé, il avait raison. Donc, il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence collective, ça doit être aussi la reconnaissance de l'expertise des uns et des autres. Et de savoir dire, c'est pas parce qu'on est.
C'est qu'on
est
doit
plus
être à la fois collectif et individuel. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette morphologie doit en permanence muter.
Mais pas trop, parce qu'on peut avoir l'illusion d'une intelligence collective lorsque, par exemple, il y a un leader qui entraîne tout le monde. Alors, effectivement, il a entraîné tout le monde, on voit le groupe. C'est formidable, on a travaillé en groupe. Par contre, on n'en a entendu qu'un. C'est celui qui a dit, allez, on y va, et on va vers là. Mais peut-être qu'il s'est trompé. Et cette idée de laisser aussi de la place à l'émergence des compétences des uns et des autres, et qui ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus, qui se montrent le plus. Donc ça, c'est pour ça que je parlais d'alchimie.
– Il faut leur laisser la parole, c'est toute la complexité aussi. –
J'aimerais bien faire une excellente démonstration de pourquoi il faut mettre des salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance, pour qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui dise « je veux, je décide », mais que l'intelligence collective puisse, c'est-à-dire que ceux qui ont une connaissance des métiers un peu différente, une appréciation un peu différente, mêler l'ensemble, mais on aura toujours besoin à un moment donné d'un responsable. S'il est vraiment responsable, il laisse sa place aux autres.
Ce n'est pas quelque chose qui peut s'imposer dans une entreprise qui est très hiérarchisée. C'est que, j'allais dire, en France, on a beaucoup encore de mal à parler d'intelligence collective.
Je suis absolument en désaccord.
Ah bon ?
Je pense que dans l'armée française, qui est très hiérarchisée, il y a des systèmes d'intelligence collective qui fonctionnent bien mieux que dans bien des entreprises du privé.
Et à quelles conditions alors, si on doit respecter
à condition que le responsable, chef. Le chef, soit un vrai chef, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui. il sait laisser ceux qui ont les compétences, c'est la subsidiarité, à l'action, à la décision, parce qu'ils ont la compétence à ce moment donné.
Je serais assez d'accord avec Joseph, mais avec une réserve près, c'est la façon dont le pouvoir dans la hiérarchie est établi. Il peut être établi ou acquis par, de toute façon par une légitimité qui peut venir d'une désignation, qui peut venir des compétences et qui peut venir de l'exemplarité. Trop souvent, dans j'ai envie de dire, l'ancien système d'organisation des entreprises, le pouvoir venait de la détention, ou on associait au pouvoir la détention de l'information. Le chef, c'est celui qui sait et qui transmet l'information.
Et les autres exécutent.
Et ça a sauté avec les moyens de communication, avec les aspirations des nouvelles générations qui ne veulent plus de ce pouvoir-là. Et donc, il y a des choses qui se réinventent. Le pouvoir, comme je le dis, doit être légitime par les compétences et l'exemplarité. Et finalement, dans une mission collective, qu'on peut appeler un projet, par exemple, et on parle du fonctionnement en mode projet, là, il faut un responsable qui peut être ponctuellement responsable, qui n'est pas forcément le supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique, il est dans son rôle, il a une certaine autorité, mais concrètement, sur la mission du groupe, sur le projet, il peut s'effacer, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est un autre qui aura la compétence et qui lui est reconnu. C'est aussi le principe de subsidiarité.
Et ça fonctionne en France. Alors, vous parlez de l'armée, Joseph.
Ça fonctionne,
mais
bien sûr.
C'est pas une mentalité franco-française où on a où le chef a une place et une.
Toujours raison.
Et a toujours raison. Non.
Je crois pas. Hein.
Non.
Après, ça a vraiment changé, ça a vraiment bougé.
Après, il y a des façons de l'aborder, de le vivre, de le mettre. Regarde, mais par exemple, si on prend un exemple extrême, à mon sens, c'est le système japonais, qui lui est très hiérarchisé. Et du coup, il y a des dysfonctionnements que nous ne connaissons pas parce que quasi naturellement, le français râleur fait fonctionner son intelligence collective plus que le japonais discipliné. On le voit sur les chaînes.
C'est une qualité propre aux Français.
Non, je ne dis pas que c'est une qualité propre aux Français parce qu'on le trouve ailleurs, mais chacun.
En tout cas, chez nous, ça fonctionne. C'est quelque chose
qu'on a. On a un exemple extrême, en tout cas.
Voilà, on a cet exemple extrême avec des chaînes. Moi, j'avais discuté avec des chefs d'entreprise qui avaient l'exemple de la même fabrication au Japon et en France et qui disaient au Japon, s'il y a un incident sur la chaîne, alors on s'arrête, on passe à la hiérarchie 1, 2, 3 jusqu'au moment où et il faut le temps que ça redescende.
Oui,
en France,
long,
il y a Polo le bricolo qui dit toc, 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 il n'en parle pas à sa hiérarchie, mais il a réglé le problème.
Ouais.
Et la hiérarchie qui n'est pas dupe a l'intelligence collective de laisser faire parce qu'elle sait que Polo connaît son boulot.
Ça, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, hein, nouvelle forme de management sous la pression des nouvelles générations qui n'acceptent plus le fait qu'on dicte en haut et puis que derrière, on n'ait rien à dire.
Alors, elle l'accepte différemment. Il ne faut pas croire qu'elle ne l'accepte pas.
Oui.
Ça passe différemment.
C'est qu'en
ça
fait, il y a un mouvement de circulation de l'information.
On va dire qu'ils sont plus exigeants.
Ils sont plus exigeants.
Sur l'exemplarité, par exemple. Et,
bien sûr, ça, c'est normal.
Et comment est-ce que l'intelligence collective peut bien fonctionner? Quelles sont les règles, les cadres? Parce que vous disiez très justement, il y a quand même une hiérarchie, il y a un respect de la hiérarchie, les codes et des règles. Quelles sont les règles et les codes qui doivent être imposés pour que cette intelligence soit utilisée à bon escient, qu'on n'oublie personne? Quels sont les... Si on peut le...
Quel est le but? Comment on a accès à l'information? À quel moment on peut s'exprimer sur ce que l'on pense? Dans quel cadre? Et il faut toujours garder le cadre. Et c'est là qu'on arrive à fonctionner. Après, c'est la patte humaine.
Et puis que ce soit respectueux de chaque personne, de chaque individu. Et j'ai envie de dire respectueux aussi d'une certaine altérité. Si l'altérité disparaît dans l'intelligence collective, on va dire qu'elle est plus intelligente, l'intelligence.
Et il y a un risque avec les nouvelles technologies. On voit aujourd'hui des études sur des algorithmes qui se basent sur l'expérience des insectes dits sociaux, les fourmis par exemple. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on va nous faire faire automatiquement l'algorithme qui dira ce qu'il faut faire. Parce que, et moi je ne tiens pas, vous savez, effectivement les fourmis, il y a une intelligence collective. Quand elles ont à franchir un
petit... Mais il n'y a pas trop d'individus en revanche. Hein.
Non, il y a du travail collectif.
Scientifiquement, on nous dit intelligence collective.
C'est
on fait des algorithmes, c'est très dangereux. Regardez bien, quand les fourmis ont à franchir un cours d'eau, elles sacrifient peut-être des centaines pour le groupe. Attention à ne pas arriver à ce genre d'extrême avec ces algorithmes basés soi-disant sur l'intelligence collective, se basant sur l'expérience et les études sur les guêpes et les fourmis.
Est-ce que cette intelligence collective est nécessaire aujourd'hui face à la complexité du monde dans lequel on se trouve? Est-ce qu'on est plus, on peut être intelligent seul, ça c'est pas évidemment, mais l'intelligence individuelle ne suffit plus, il faut cette complexité, cette souplesse.
Mais je ne suis pas sûr qu'à un moment dans l'histoire du monde, l'intelligence individuelle est suffit. On en parle aujourd'hui et depuis toujours. Ça fait partie de la nature humaine aussi. L'homme est un être de relation et c'est un être de relation, y compris dans son travail. Et il a besoin de ce travail avec d'autres. Donc on n'invente rien. Simplement, on le conceptualise un peu mieux. Mais je voudrais ajouter qu'il y a quelque chose de nouveau, puisqu'on parle d'intelligence qui arrive. C'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est la machine dont Joseph parlait. Et là, le risque, il est réel. Et comment, jusqu'à présent, on avait à combiner l'intelligence individuelle avec l'intelligence collective, ça dans le fonctionnement d'un groupe, mais aujourd'hui, il va falloir combiner aussi avec l'intelligence artificielle et ses limites, ou ses non-limites même parfois.
Ouais, d'abord, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est une in-intelligence artificielle.
Oui,
c'est-à-dire c'est celui qui bâtit l'algorithme, qui a la machine aussi développée, alors la machine, elle calcule beaucoup plus vite que nous, d'accord, mais c'est celui qui bâtit l'algorithme, qui met l'algorithme, etc., qui décide de ce que la machine... Et là, on est en train de se faire embarquer en nous faisant croire que la machine, ça pourrait être
alors qu'elle a pris une fonction reproductive et que l'homme est derrière.
Mais je crois que tu as raison, Joseph, on parle d'intelligence artificielle, il faudrait pas parler de compétences artificielles.
C'est pour ça que quand tu m'as repris sur les fourmis, tu as
je me suis
absolument
permis.
Et que ça ne se reproduise plus.
Vous êtes tous les deux un bel exemple de ce que l'intelligence collective peut aboutir. On arrive à être plus intelligents tous ensemble. Vous êtes bien la preuve que...
Dire qu'on était un bon exemple d'intelligence artificielle.
Artificielle, vous le suivez, messieurs. Voilà, donc merci à vous pour cette belle exemple de travail collectif, d'intelligence collective, à chacun avec vos différences, qui savent parfois s'aplanir pour un consensus. Voilà, merci à vous également de nous avoir suivis. Je suis très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Travail dans tous les sens.